Donc je vais vous demander de vous présenter déjà, de me dire quelle est votre la commune dans laquelle vous êtes élu et quel est votre métier.
Oui, alors moi c'est Frédéric Salle-Lagarde. Je suis maire de la commune de Moussac, qui est le plus à l'ouest de la CCPU. Mon métier, moi je suis ancien militaire, officier de marine, reconverti en ingénieur civil et accessoirement président de la Fédération d'archéologie d'histoire du Gard. Je m'occupe beaucoup d'archéologie et d'histoire, principalement. Ma spécialité, moi, c'est l'archéologie monumentale du 10e au 14e siècle.
Quels sont les défis actuels pour la commune et les projets ?
Les défis pour la commune, c'est probablement comme à peu près toutes les communes, c'est-à-dire qu'arriver à essayer d'avoir un cadre de vie qui soit agréable, de se défendre ou d'anticiper les problèmes climatiques que nous avons, les problèmes sociétaux que nous avons tous et qu'il faut gérer, la paupérisation, la vie chère, les maisons chères. On est dans une région où les maisons sont très chères et où c'est compliqué de se loger pour des gens qui ont des revenus faibles, parce qu'on est également une région qui n'est pas très riche, avec beaucoup de revenus qui ne sont pas très élevés. Peu d'industrie, peu de commerce, peu de... voilà. Bon, par contre, Moussac, c'est une ville, c'est une commune très jeune, c'est la troisième commune en nombre d'habitants de la CCPU, après Uzès et Saint-Quentin-la-Poterie. Très jeune, 1750 habitants et 8 classes à l'école, plus de 250 jeunes aussi scolarisés en secondaire. Donc voilà, ça c'est très très jeune, avec pas de problème d'emploi sur la commune à proprement parler. Il y a vraiment de quoi travailler de partout, entre les différentes industries qu'il y a sur place, plus l'agriculture qui quand même demande de la main d'œuvre. Et autre défi, c'est une commune qui a été pendant très longtemps gérée par à la bonne franquette, mais comme partout en France. Ce qui fait qu'il faut la remettre de plein pied dans le 21e siècle. On a des soucis de structure hydraulique, de distribution d'eau, des choses comme ça. Des problèmes d'urbanisme avec tout un vieux village qu'il faut essayer de redrainer pour ne pas le rendre, justement pour pas qu'il se paupérise, pour pas que des gens pauvres achètent des ruines et qu'ils ne peuvent pas retaper. Donc il y a vraiment quelque chose à faire là-dessus. Parce qu'on pourrait avoir un village qui serait très très beau. Et là, il y a un gros travail à faire. Donc ça sera un gros défi pour moi, là, mais surtout pour mes successeurs.
Est-ce qu'il y a des lieux préservés sur la commune ? Sont-ils protégés ou en danger ?
Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, mais je dirais qu'il y a, pour moi, il y a deux endroits qui sont essentiels à l'image de la commune. C'est le vieux village avec son château au milieu et sa ville autour. Et la rive Sylve du Gard. On a l'originalité, on est les seuls sur la CPU à avoir ça, avoir un plan d'eau qui est jamais à sec, qui pourrait être une source. Alors, on a travaillé beaucoup sur l'aménagement des rives, etc., mais c'est compliqué parce qu'il faut avoir la maîtrise foncière, et ça c'est compliqué. Et là vraiment on a ces deux pôles qui pourraient être deux, si on arrivait à avoir les moyens, à les mettre en valeur, qui seraient deux richesses vers lesquelles il faut tendre. Moi, je viens de l'extérieur, je ne suis pas moussacois d'origine. Et donc j'ai cette vue extérieure que les moussacois, peut-être parce qu'ils ont la tête dans le guidon et ils ont toujours vu ça, donc ils ne le voient pas autrement. Mais ces deux richesses qu'on a qui sont inexploitées à l'heure actuelle ou que partiellement exploitées.
Donc, quels sont vos liens cette fois avec la CCPU ? Est-ce que pour vous, cette appartenance est plutôt source d'avantages ou d'inconvénients ?
Alors, nous, on n'est pas par hasard la CCPU, c'est une volonté forte qui a été la nôtre. On appartenait il y a jusqu'à 2017 à la CCLG, Lesgardonnec, donc comité de communes de Lesgardonnec, qui était une commune très politique, avec des, voilà, voilà, c'était très marqué politiquement, et à laquelle on ne se sentait pas du tout à notre place. La loi NOTRe pour nous n'a pas été un problème, ça a été une opportunité. Et la préfecture nous a envoyé à Nîmes. On a fait des réunions publiques. Suite à ces réunions publiques, il y a eu un vote populaire des Moussakois qui a dit à 97% qu'on voulait aller à Uzès. Donc c'est vraiment un choix. Et c'est un choix que je n'ai jamais regretté et que les Moussakois, je ne crois pas, ne regrettent parce que finalement, on est grand chez les petits. Et c'est toujours mieux que d'être très petit chez les très grands.
Quelles sont les principales activités cette fois sur la commune et est-ce qu'il y a des activités un peu emblématiques?
Alors, il y a une activité historique, et historique mondiale d'ailleurs, sur la commune, mais qui ne fonctionne plus. On est le premier endroit au monde où on a extrait de la Rémisse le ZAM. Et le Carensac, qui est connu dans le monde entier, vient de Moussac. Et d'ailleurs, on a la réglisserie de Moussac, qui est maintenant une usine du 19e qui a été rachetée par Haribo et qui s'effrite doucement au bord du Gardon, de l'autre côté, sur la rive droite. Moussac est là sur la rive gauche. Et donc, ça, c'est vraiment emblématique de Moussac, c'est la réglisserie, tout le monde vous le dira. Et ensuite, bon, après, on a issu de ce passé-là, il reste malgré tout encore une usine de conditionnement qui est partiellement la propriété d'Haribo, qui s'appelle Futurplast, qui emploie pas mal de monde, qui a un système de packaging. Pour Haribo et pour d'autres, pour l'Europe entière, très très performante. Voilà, c'est la plasturgie, c'est pas tellement ici, c'est plutôt vers le Lyonnais ou l'Ain. Donc là, on a quand même ce fleuron qui est ici. On a la première entreprise de travaux publics du Gard, avec plus de 150 salariés, la plus grosse entreprise du Gard de travaux publics, qui est Lotier Moussac. Et on a une magnifique cave coopérative qui regroupe le CDI des Trois Tours, qui regroupe toutes les communes autour, où on fait 50 000 litres, 50 hectos, pardon, 50 000 hectos de bon vin. Et on en est comptable. Après, on a tous les commerces, les coiffeurs, docteurs, on manque de rien. C'est une chasse.
Quelles sont cette fois les actions des associations sur Moussac?
Malheureusement, et ça c'est le problème, comme je suis d'ailleurs président d'une fédération d'associations, c'est le problème de toutes les associations. Les associations sont très fragiles. Elles tiennent en général sur un ou deux ou trois maximum leaders qui arrivent à faire quelque chose. Alors on a des associations qui disparaissent, on a un peu qui se créent. On a d'excellentes relations avec eux, puisqu'on leur donne plus de 20 000 euros par an de subventions à toutes ces associations. On a notamment un club de foot qui marche très bien, un club de tennis qui marche très bien, judo, aikido, etc., de personnes âgées. On a, malheureusement, ils ont été dissous tous les deux, on n'en a plus. Et puis, voilà, après, on a quelques associations de moto, de qu'est-ce que c'est qu'on a vieilles voitures. Collectif de comment ça s'appelle ça de, enfin bref de, qui vont travailler sur l'écologie, qui vont travailler sur les jardins partagés, qui vont faire du nettoyage, on va le faire dimanche prochain sur la commune. Voilà. Donc très bonne relation et en tant que maire, moi je suis ravi parce que ça démultiplie notre action et avec peu de subventions qu'on leur donne, ils nous font un beau travail.
Actuellement, qu'est-ce qui, selon vous, devrait être amélioré au niveau du réseau, des communications avec les institutions?
Une bien meilleure écoute des services de l'État, fonctionnement qui est délétère à l'heure actuelle de la justice, c'est-à-dire que 95% des plaintes posées ne sont sans suite et le procureur n'a même plus le temps de vous dire qu'il ne donnera pas de suite. Donc ça, pas de justice, pas de république, ça c'est un gros gros problème. Et les services de l'État qui regardent leur nombril, qui ont de moins en moins de personnel, mais qui ont le peu de personnel qu'il y a, ont le plus en plus d'autorité, qui fait que des décisions sont prises en dehors de tout bon sens local. Alors est-ce qu'elles viennent des énarques parisiens? J'en sais rien. Toujours est-il qu'ici, elles arrivent complètement inadaptées. et appliquée d'une façon très autoritaire et méprisante par les fonctionnaires de l'État en général, à quelques rares exceptions près.
Et qu'est-ce qui pourrait être amélioré au niveau écologique ici?
La formation des gens. La formation des gens dès le plus jeune âge, à l'école, sans essayer de travailler. Et puis qu'on arrête, qu'il y ait un sens civique qui se perd, à mon sens, c'est clair, c'est pas parce que je suis un vieux croulant à Saône de Vallée, mais il y a vraiment un sens civique qui s'est délayé. Et on retrouve des gens qui ne trient pas, des gens qui jettent n'importe où, n'importe quoi. Alors ça s'améliore, mais très doucement, trop doucement, beaucoup trop doucement par rapport aux enjeux qu'on a.
Cette fois au niveau des transports.
Ça fonctionne.
Vous avez un réseau de
On a les bus,
transport.
voilà, on est pas trop mal placé, ça fonctionne. On essaye de mettre en place une voie verte qu'on est arrivé à faire partiellement, mais là aussi on est bloqué par du foncier. Voilà. Mais bon, on n'a pas trop à se plaindre sur le. En termes de. On a la chance, d'avoir la chance d'avoir une gare. Donc on a une gare. Ma fille et ma femme vont à Nîmes tous les jours. Ils ont un quart d'heure de train pour aller à Nîmes sans embouteillage, pas sans perturbation parce qu'il y a des grèves. Mais bon, malgré tout, c'est un atout. On est sur un réseau de bus qui fait donc le centre du Gard, puisque Moussac, oui, je ne vais pas préciser, on est le centre du Gard. Donc qui fait le centre du Gard et qui irrigue de Nîmes à l'Est-Uzès. Et on est à un quart d'heure de Nîmes à l'Est-Uzès. Donc voilà, on a vraiment une chance. Nous sommes très centraux et nous avons la possibilité d'aller vers ces trois villes les plus grandes du département d'une façon très, très rapide et sereine par les transports qui existent.
Cette fois, qu'est-ce qui devrait être amélioré au niveau patrimonial? Donc, je pense au patrimoine historique, le patrimoine culturel, je pense aussi aux archives.
Ben, comme là c'est mon dada, j'y ai travaillé quand même, puisque j'ai restauré de fond en comble le château. Les archives, on les a totalement numérisées, ce qui est vraiment une protection, parce que j'ai appris, quand j'en ai fait l'inventaire, j'ai appris que beaucoup avaient disparu, parce que les maires ne savaient pas de la valeur que ça avait, ou que certains se servaient dedans, allègrement. Donc ça c'est vraiment un trésor qui disparaît. Donc je les ai fait numériser toutes, chaque feuillet. Tout est en ligne sur le site de la commune, même si un jour ça brûle, si c'est inondé, si c'est volé. C'est in vitam aeternam sur les disques durs et les archives sont sauvées. Au niveau du reste du patrimoine, c'est un problème d'argent, c'est pas autre chose. La volonté est liée, après il manque des sous, il manque des sous pour le faire correctement. Là encore, les services de l'État sont très prescriptifs, mais ils ne donnent pas d'aide. Alors ce qu'on a fait, on donne une aide de 15 euros par mètre carré pour ceux qui restaurent leur maison dans les règles de l'art ancien. Pas avec des produits chimiques, mais avec de la chaux, du sable, des choses comme ça, des choses très saines. Pas de volets ou de fenêtres en PVC ou en alu, mais du vrai bois. Et voilà. Donc là, on travaille là-dessus, et c'est vraiment ce qu'il faudrait pour que ce patrimoine perdure. Et puis, toujours pareil, y travailler pour la connaissance. Quand un village a la chance d'avoir un groupe d'historiens qui travaillent dessus, c'est un trésor parce que les gens se réapproprient une histoire qui s'oublie trop vite.
Pour tout ça, sur quelles ressources pouvez-vous compter?
Les associations, ben, il n'y en a pas sur la commune ici, au niveau du patrimoine, malheureusement. Je travaille beaucoup d'autres ailleurs, mais ici, il n'y en a pas. Moi, j'ai travaillé, on est quelques-uns à y travailler. Même sur des choses très simples comme pour l'Oiseau Vert, pour le bicentenaire, pour le centenaire, pardon, on avait fait vraiment une étude mémorielle de nos poilus. C'est pas grand-chose, mais c'est pas mal. Sur les archives, on y a travaillé déjà pour connaître un petit peu le passé protestant du village. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étaient les cimetières? Où était l'église? Et tout ça, on a fait des recherches, on l'a trouvé. Et on a fait un circuit sur le village à base de QR code et des microfilms avec. Donc là, la mairie a payé, c'est-à-dire qu'on avait des ressources internes de connaissances dont je fais partie qui ont donné des billes à quelqu'un qui l'a mis en forme, qui a pu faire des vues en 3D du village à l'époque médiévale avec des recherches et des vues en drone, etc. Tout ça est accessible dans le village avec un simple smartphone et on flash un QR code et vous avez un film qui va vous parler de Garlon, de la tour, de la fresque de Moussac, voilà, des choses comme ça.
Quel est cette fois votre lien avec le territoire, les lieux que vous aimez et pourquoi vous avez voulu être maire de cette commune?
Moi, c'est un hasard complet. J'étais ingénieur principal à la première entreprise ETP du Gard. Donc, j'ai été amené ici. J'ai été amené à intervenir sur un morceau du château qui était tombé dans une rue, qui bloquait la rue. Donc, je suis intervenu en tant que professionnel. Et j'ai été en contact avec le propriétaire du château, qui était une banque. Et quand la banque a vu les problèmes inextricables qu'ils avaient avec ce château, ils avaient déjà souhaité le vendre, mais une vente aux enchères, ça n'avait pas marché, c'était trop cher. J'ai fait une proposition à vil prix parce que le château était en très 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 mauvais état. Et j'ai restauré le château pendant presque 3 ans. Les Moussacois ont vu ce type qui était en cravate toute la journée et qui était dans un état épouvantable tous les week-ends, toutes les vacances et tous les soirs. Pendant 3 ans de bosser ce château, le refaire vivre complètement et m'intéresser à l'histoire du village parce que c'était imbriqué avec l'histoire du château. Et je pense que cet attachement que j'ai eu pour les pierres locales que j'ai appris par la suite, qui avaient été fréquentées par mes ancêtres, ont créé un lien indéfectible avec le village, même si je ne suis pas né ici. Et j'ai tout fait pour y rester d'une manière ou d'une autre ce que je fais. Voilà, c'est un lien historique et patrimonial que j'ai avec le village. Plus qu'humain, parce que les gens, je ne les connaissais pas au départ. Maintenant, je les connais.
Mais vous avez découvert au cours de tout ça, finalement, que vous aviez quelques racines ici.
Oui, d'une façon très étrange. En faisant l'histoire du château, je me suis rendu compte que, en le mettant en parallèle avec ma généalogie et celle de mon épouse, d'ailleurs, parce qu'on a la même. À 500 ans près, on est parents. Il y a un moment, il y a 500 ans, pas de consanguinité évidente. Et oui, on s'est rendu compte qu'un de nos ancêtres communs avait fait son testament devant le château en 1373. Le seul nom d'Urbain V, qui était le dernier pape d'Avignon, et qui est dans notre famille, enfin pas lui évidemment, mais sa sœur qui est notre ancêtre commune. Et qui a été vicaire général à Uzès, et qui a été forcément habitant du château de Moussac, pardon, puisque le château de Moussac appartenait aux évêques d'Uzès. Voilà, c'est en faisant l'histoire du château et à la croisant avec l'histoire de notre famille, de mon épouse et de moi, qu'on a trouvé ce lien. Mais après, on ne peut pas dire qu'on l'a pas acheté parce que c'était. Mais enfin, bon, c'est pas forcément étonnant. Quand vous avez une généalogie qui est assez ancienne, donc là vous avez des milliers et des milliers de gens. À un moment ou un autre, vous tombez sur une branche qui est plus importante que l'autre, parce que moi je suis fils d'ouvrier, ma femme aussi, mais bon, au bout de pas très longtemps, mais ça c'est notre chance, parce qu'après sinon la généalogie ne monte pas plus loin. Mais si on arrive à choper un noble avant 1600, après vous avez, c'est bon, vous avez tout. Hein. Je tombe 13 fois sur Charlemagne, ma femme 11, mais comme nous tous, comme toute la population d'Europe, c'est pas tous tant qu'on y est, on a des centaines de fois Charlemagne dans notre. Mais bon, à un moment donné, il faut arriver à le démontrer. Si vous avez eu que des paysans pendant 500 ans, la généalogie s'arrête. On s'arrête un peu avant la Révolution, mais pas plus loin, malheureusement. Mais à un moment donné, ils sont fils de nobles, à un moment donné, et là, vous arrivez à continuer la généalogie. C'est une chance, c'est tout.
Maintenant, si vous deviez me faire découvrir la commune via une balade, où irions-nous et pourquoi?
Alors, je pense qu'on commencerait par le Gardon, parce que le Moussac a les pieds dans le Gardon. Et ça, c'est important. Là, c'est la première chose. Après, on cheminerait du Gardon en allant vers le centre-village. Parce que le centre-village, c'est la partie la plus ancienne. C'est probablement un reste de. Sous tous les châteaux féodaux, il y a un oppidum. Et sous tous les villages perchés, il y a un reste. Donc il y a des traces visibles sur le sol de la partie du Rhin, la partie ancienne, qui sont probablement proto-historiques. Et puis après, on redescendrait la colline du village pour monter dans la garrigue. Et là, on traverserait les champs de vigne jusqu'à des tombeaux qui ont été sculptés dans la roche, probablement au 11e ou 12e siècle. Et en cheminant, on trouvera par terre des tégulés, des embrex, des dolia, qui sont des noms d'artefacts d'origine gallo-romaine, où le village en est empli dans tous les sens. Moussac, comme tout le reste du Gard, une grande partie de la France, mais Moussac particulièrement. Ouais.
Cette fois, le paysage sonore étant une composante du lieu où nous vivons, comment décririez-vous les sons de la commune et lesquels sont selon vous les plus emblématiques ?
Alors, pas facile comme question ça. Je vais essayer d'être un peu générique, mais ça ne sera pas forcément le plus joli. C'est quoi ? Ça va être le bruit du gardon quand il est en crue. C'est un bruit très très impressionnant. Surtout si vous êtes sur la passerelle en fer, où tout résonne, tout vibre. Vous voyez cette masse d'eau, d'arbres, de racines, de boue qui vous arrive sur vous, qui est faramineuse, puisque c'est le gardon est probablement une des rivières les plus irrégulières de France. L'autre bruit, ben, c'est celui qui va un peu avec. C'est un bruit d'orage, d'éclair. Quand on a ces orages cévenols, là, dit cévenols, ça fait un boucan d'enfer. C'est vraiment la fin du monde. Donc, tout se transforme, et deux heures après, il fait soleil, mais tout s'est transformé en très peu de temps. Et après, ça va être quoi ? Emblématique, purement, alors c'est pas forcément le quotidien, mais ça va être le bruit des courses de taureaux dans le village, le bruit des gens qui ont peur, qui crient, qui veulent faire fuir le taureau, la cavalcade des sabots des taureaux et des chevaux. Ça, c'est, pour moi, c'est exotique. Je sors des Cévennes, on n'a pas ça. Mais ça, c'est vraiment un son qui est particulier. Après, je pense le parler local, le parler local qui n'est pas différent de celui qui est le mien à moins de 5 km d'ici, mais qui est particulier à chaque village. Chaque village a un peu son timbre, son. Donc, je pense qu'il y en a un qui est un peu ici, mais ça se dilue aussi parce qu'il y a tellement de nouveaux arrivants. C'est un village qui est très attractif, il y a tous les commerces et tout ça, il grandit très vite. C'est pour ça qu'on a beaucoup de jeunesse. Et en même temps, il y a plus ce son unique. C'est un son maintenant mélangé avec des Bretons, avec des Danois, avec des Suisses, avec des. Voilà. Tout ça, parce qu'ils sont, comme ils disent avec humour, on est des réfugiés climatiques. Ils viennent ici parce qu'ils sont bien. Et puis ils se trouvent bien, quoi. Il y a le climat, bien sûr. Puis bon, c'est assez cool, à part pas dans les fêtes avec les taureaux, c'est moins cool. Mais bon, les gens peuvent s'en aller à ce moment-là.
Maintenant, s'il ne fallait retenir qu'un seul son sur ce que vous venez de me citer, lequel choisiriez-vous et pourquoi ?
Le son du gardon. C'est le. Un peu au bord du Rhône, mais ça ne faisait pas le même bruit. Ce son-là, ce son d'inondation. Il y a l'odeur aussi, on parle du son. Mais ce son, cette odeur, ce vent qui vous souffle dessus, les gouttes qui peuvent taper dans la figure comme des aiguilles, tellement c'est poussé fort qu'elles sont grosses et dures. Ça c'est ce son-là, il est particulier. Après, il y en a un son là, qui m'avait frappé quand j'étais dans le château, bon, c'était ces martinets qui tournaient autour du château en sifflant, autour de la tour. Et on aurait dit des voitures de Formule 1 qui glissaient sur le gravier. Et ça devait par vagues comme ça. C'était vraiment. Ça se fait tous les étés. Hein. Si vous pouvez l'enregistrer, ça, il faut le faire. Moi, j'ai jamais vu ça nulle part.
On va s'organiser.
Et là, comme ça, là, en groupe, ils sont 10, 20, 30 à tourner en même temps avec ce bruit, avec ce sifflement, qui est pas un bruit. Enfin, qui est un bruit, oui. Mais c'est un sifflement, je veux dire. C'est pas parce qu'ils fendent de l'air que ça fait ce bruit-là. Hein. C'est parce qu'ils sifflent en même temps. Alors, est-ce que c'est parce que la tour elle chauffe et qu'il y a des insectes autour et ils viennent les manger en groupe ? Je ne saurais pas l'expliquer. Il faudrait avoir un ornithologue pour savoir ça. Moi, je ne le sais pas.
Mais essayer de percer le secret alors.
Ouais,
et l'enregistrer en même temps, ça serait intéressant ça.
Ça, c'est vraiment à voir. Ouais.
Donc, ce son est-il potentiellement en danger de disparition pour les années à venir ? Si oui, pourquoi et comment pensez-vous qu'on pourrait le préserver ?
C'est pas sexy, mais moi je vais dire non, il est pour moi, il n'est pas en perte de. Non, Non, je crois pas. Je crois pas. Malheureusement, pour les inondations, ça a plutôt l'air de s'aggraver que de se calmer. Et puis pour cette histoire d'oiseaux, bah, je pense qu'ils sont très bien, ce tour-là. Ils viennent tout le temps. Ils cohabitent avec les choucas. Le chouca, c'est une variété de. C'est une variété de corbeaux, de corneilles plutôt, qui est particulière des tours. Au lieu d'être complètement noir, ils ont la tête grise. Et le chouca des tours, il y en avait. Bon, ils cohabitent tout ensemble, là où ça se passe très bien. Ça, je pense pas que ça va disparaître. Non, je pense pas que ça va. Je ne crois pas en danger. Je ne crois pas.
Cette fois, toute utopie possible, que serait votre commune demain et dans les décennies à venir?
Plus beau village de France. On restaure tout, on fait tout comme il faut, on enlève le goudron, on pave comme c'était à l'ancienne, on vire toutes les paraboles, les antennes, les câbles électriques, tout ça, on planque tout. Et puis on s'habille avec des matières qu'on a toujours portées, du coton, de la laine, de la soie. Quand on veut que les filles soient belles, on les met en mettant de la soie, de la fourrure, du cuir, des choses qui ne sont pas véganes. Mais des choses qui sont naturelles, qui seraient, où les gens seraient plus cool, pas de smartphone, pas de conneries comme ça, et qu'on soit vraiment, qu'on vive au 21e ou 22e siècle, avec tout le confort, la santé voulue et les bonnes informations, mais pas sans arrêt, pas n'importe quoi, pas, voilà. Ça serait bien. Un monde où les gens seraient bien éduqués, très bien éduqués, pas de fake news, où tous les professeurs auraient à raconter la vérité pour ce qui est de l'histoire et qui passionnent les gens pour ce qui est de la science. Hein, parce qu'on a beaucoup de peine d'avoir des bons professeurs de science. Quand vous avez un bon professeur de science, vous serez un chef dans cette matière-là un jour. Et malheureusement, comme on tombe sur des gens qui ne font pas toujours ce métier pour autre chose que pour gagner leur vie, ben, ils ne restituent pas forcément bien. Mais on a tous un souvenir, un professeur qui était extraordinaire, qui nous a donné une passion de la matière qu'il a enseignée. Voilà, et ça, il faudrait que tous les professeurs soient comme ça. Et tous les gens seraient bien après parce qu'ils auraient la bonne culture. Et tout passe par la culture. Les gens mal élevés, ben, ils sont mal élevés. Et puis on n'en fera jamais rien. Il ne faut pas faire des gens va-t-en-guerre, il faut faire des gens courageux, résistants, résilients, pas des moutons. Et ça passe par l'éducation, par la culture, par l'exemple. Voilà, il faut de l'exemple. Alors voilà, ça serait ça le village parfait, idéal, que je rêvais, que je n'irai jamais, que personne ne verra probablement un jour, peut-être très 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 longtemps. Mais là, on fabriquera les hommes, ce ne sera peut-être pas forcément la meilleure solution d'arriver à l'équilibre.
Et cette fois, une dernière question. Si vous deviez maintenant vous adresser à un habitant de votre commune en 2122, dans un siècle, que lui diriez-vous et quel message voudriez-vous lui transmettre?
Je lui dirai tous les problèmes que nous avons pour le rassurer. Parce que je pense que lui, il a droit aussi. Puis ben, il va croire comme tout le monde, mais avant c'était mieux. Non, non, avant c'était pas mieux. Avant tu avais 20 ans, maintenant tu as 80. Donc oui, à 20 ans tu étais mieux qu'à 80. Mais avant c'était pas mieux. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et je suis sûr que dans 2100, j'espère que je suis sûr, c'est peut-être de l'utopie encore, mais j'espère, historiquement parlant, ça marche souvent, ça marche pas tout le temps, mais ça marche souvent, que ça va s'améliorer. Alors, j'espère qu'on sera, c'est mon expression, moins con en 2100 que maintenant, qu'il y aura moins de Poutine, de l'Ayatollah ou de Bolsonaro, j'espère. Déjà, il faudrait qu'on arrive à 2100. Et bon, ils auront des problèmes, mais il faut les rassurer, leur dire, attendez, nous, à notre époque, voilà tous les problèmes qu'on avait. Alors, toi, tu en as peut-être, certainement, il en aura. Bon, tu vas vivre à 104 ans, minimum, sans jamais avoir de cancer, ni besoin de porter de lunettes, ni d'appareil auditif, ni de trisomie dans ton monde, ni de ceci, ni de cela. Bon, alors, tu as d'autres problèmes, hein, ta soucoupe volante, elle graisse un peu quand tu ouvres la porte, mais bon, tu te déplaces à 600 km/h sans risquer d'alger pour qui que ce soit, sans polluer la planète. Bon, tu as des problèmes, mais ils sont pas graves. C'est ce qu'il faudrait leur dire, je pense.
Très bien, je vous remercie.
Avec plaisir. C'était intéressant, en plus.